Et je vous invite ce soir à ouvrir vos Bibles au chapitre 2e du livre de Ruth. Nous le lisons pour la dernière fois aujourd'hui. Dans cette soirée du 5 juillet 1994, en traitant toujours le sujet « Sans la foi, il est impossible de lui plaire », nous nous recueillons un instant devant le Seigneur. Dieu notre Père, encore une fois, nous éprouvons que nous sommes sous ton regard. Et ce ne sont pas des discours de sagesse que nous voulons entendre, mais seulement ta parole. Et comme Samuel, entendre ta voix. Alors ensemble, nous te disons, parle, Seigneur, tes serviteurs, tes servantes, écoute. Et que cette écoute nous amène à une compréhension plus profonde des richesses de l'Écriture et que nous puissions vraiment, comme David, faire l'expérience que ta parole nous fait vivre pour ta seule gloire. Amen. Les versets que nous considérons plus particulièrement sont à la fin de ce chapitre. Mais nous aimons les remettre dans tout ce contexte. Le verset premier, disions-nous, de ce chapitre, nous annonce ce qui va se passer dans cette première journée de travail de Ruth, la Moabite. Elle va rencontrer un homme riche et puissant dont elle ignorait complètement l'existence et qui s'appelle Boaz. Le verset premier est comme au fond un résumé essentiel de ce qui va se passer pour Ruth. Dans cette rencontre, Naomi avait un parent de son mari. C'était un homme puissant et riche, de la famille d'Élimélec, et qui se nommait Boaz. Et nous avons vu que Boaz veut dire « en lui est la force ». Et vous savez que Salomon, quand il a construit le temple, il a fait deux grandes colonnes dans ce temple, des colonnes de cuivre, et il en a appelé une Boaz. Vous avez cela dans le premier livre des Rois. Ruth, la Moabite, dit à Naomi, « Laisse-moi, je te prie, aller glaner des épis dans le champ de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. » Ruth ne connaît personne. Va-t-elle rencontrer quelqu'un qui acceptera qu'elle glane dans son champ, elle l'espère. Mais elle demande quand même l'autorisation à sa belle-mère. Elle lui reste entièrement soumise et comme nous l'avons vu, elle veut vivre ce qu'elle a dit. Là où tu iras, j'irai. Là où tu demeureras, je demeurerai. Mais pas pour être assise à ne rien faire. Elle sera là pour subvenir aux besoins matériels de sa belle-mère qu'elle a voulu suivre. Elle ne va pas vivre au crochet de sa belle-mère. Du reste, sa belle-mère est pauvre, elle n'a plus rien. Son mari, en quittant Bethléem, avait tout vendu. Elle rentrait à vide. Alors la belle-mère lui dit, « Va, ma fille. » Elle alla glaner dans un champ derrière les moissonneurs. Et il se trouva précisément que la parcelle de terre appartenait à Boaz, qui était de la famille d'Élimélec. Mais là, Ruth ne le savait pas, mais Dieu l'a conduit lui-même dans le champ de Boaz. Et voici Boaz vint de Bethléem. Les champs, quand on est à Bethléem, Bethléem, la ville qui est là, assez proche de Jérusalem, et puis les champs sont en bas. Elle alla, verset 3, glaner dans un champ derrière les moissonneurs. Il se trouva précisément que la parcelle de terre appartenait à Boaz, qui était de la famille d'Élimélec. Et voici Boaz vint de Bethléem, et il dit aux moissonneurs, que l'Éternel soit avec vous. Quelle belle salutation. Et ils lui répondirent, que l'Éternel te bénisse. Et nous avons vu quelle relation pouvait exister quand il y a la crainte de Dieu dans le cœur d'un patron et dans le cœur des ouvriers. Tout est transformé. Le patron voit dans ses ouvriers le Seigneur lui-même. C'est cela qu'on doit voir. Un patron croyant, vivant dans la communion de son Dieu, voit dans son prochain l'image de Dieu lui-même, et alors il considère son ouvrier non pas comme un homme quelconque, mais comme une créature du Père Céleste, et il voit le Seigneur en cet homme. Et il pense qu'il doit traiter cet ouvrier comme si c'était le Seigneur lui-même. Mais l'ouvrier, qui est rempli aussi de la crainte de Dieu, ne voit pas simplement l'homme qui est son patron, mais il voit dans son patron le Seigneur. Et il fait toutes choses de cœur, non pas pour le patron, mais pour le Seigneur. Alors il y a prospérité dans leur relation et dans tout ce qu'ils accomplissent. Verset 5. Et Boaz dit à son serviteur, chargé de surveiller les moissonneurs, à qui est cette jeune femme? Il a tout de suite remarqué qu'il y avait quelqu'un de nouveau dans son champ. Le serviteur, chargé de surveiller les moissonneurs, répondit, c'est une jeune femme moabite qui est revenue avec Naomi du pays de Moab. Elle a dit, permettez-moi de glaner et de ramasser des épis entre les gerbes, derrière les moissonneurs. Et depuis ce matin qu'elle est venue, elle a été debout jusqu'à présent. et ne s'est reposé qu'un moment dans la maison. Boaz dit à Ruth. Donc Boaz s'est approché immédiatement de Ruth et s'est adressé à elle d'une façon tellement touchante. Il la considère comme une de ses filles. Écoute, ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ. Donc, elle apprend qu'elle est acceptée dans le champ de Boaz. Mais non seulement qu'elle est acceptée, mais que le patron désire qu'elle reste là, puisqu'elle n'a pas ailleurs. C'est quelque chose de merveilleux tout de suite, hein. Dans les premières paroles, elle voit toutes ses craintes dissipées. On lui dit qu'elle est acceptée, mais on lui demande même de ne pas aller ailleurs. Alors elle est toute bouleversée. Ne t'éloigne pas d'ici et reste avec mes servantes. Elle qui ne connaissait personne, voilà que ce Boaz lui donne des compagnes. Et ces compagnes ne sont pas n'importe qui. Ce sont les servantes de cet homme puissant et riche. Elle est mise au même rang qu'elle. Alors que la pauvre Ruth se sentait une étrangère, même à Bethléem. Et il continue. Regarde où l'on moissonne dans le champ et va après elle, après les servantes. J'ai défendu à mes serviteurs de te toucher. Elle a agi vraiment rapidement dans ses décisions. Il veut qu'elle soit dans son champ, mais il ne veut pas qu'il lui arrive quelque chose de mauvais. Et il est allé trouver ses jeunes serviteurs et il leur a dit: vous allez respecter cette femme. Vous allez vous conduire honnêtement, noblement. Il garantit la sécurité de cette femme. C'est absolument merveilleux. Mais c'est un homme qui est rempli du Seigneur. Il a la crainte du Seigneur. Et puis c'est un homme qui aime les étrangers. Et pour quelle raison? Parce que sa mère, on l'a vu ce matin, était une étrangère. C'est quelque chose. Et son père, Salmon, qui était un prince d'Israël, avait osé épouser une étrangère. Et qui était cette étrangère? C'était Rahab, l'ancienne prostituée. Et son père avait épousé cette femme qui avait été sauvée miraculeusement de la destruction de Jéricho, parce qu'elle avait la crainte de Dieu dans son cœur, parce qu'elle avait cette foi que le Dieu d'Israël était le seul vrai Dieu, et que si Israël gagnait les batailles, c'est parce que son peuple avait vécu dans l'iniquité et que c'était un châtiment. Mais elle ne désirait pas mourir, elle désirait être sauvée, et pas seulement être sauvée elle, mais toute sa famille. Et cette mère de Boaz avait sauvé son père, sa mère, et tous les membres de sa famille qui avaient bien voulu la croire et partager cette certitude qu'elle avait que Jéricho, malgré ses murailles, ne tiendrait pas devant Israël. Le Dieu d'Israël, qu'avait-il fait? Les plaies d'Égypte, on les connaissait. Et puis, la mort du Pharaon dans les eaux magnifiques de la mer Rouge, on savait cela. Israël avait traversé à pied sec la mer et avait chanté de l'autre côté de la mer en voyant les cadavres de leurs ennemis anéantis par les eaux puissantes. Tout cela se savait dans le pays de Moab et on avait la crainte. Eh bien, cela, vous pouvez le méditer. La mère de ce Bose était une étrangère, une cananéenne, qui avait connu la grâce de Dieu, qui avait pourtant dit que les Cananéens n'entreraient jamais dans la congrégation d'Israël, mais Dieu, en voyant ce qu'il y avait dans le cœur de cette prostituée, Dieu était intervenu en sa faveur. Et c'est elle qui était la mère de Bose. Alors, vous pouvez comprendre comment son cœur était ouvert envers cette Moabite. Il se souvenait de ce qu'avait pu connaître sa propre mère. Parce qu'une mère qui aime ses enfants, elle parle à ses enfants. Elle leur parle de choses sérieuses. Elle leur parle de ses propres expériences. Et ainsi, les enfants, voyant la foi d'une mère, la foi des parents, eh bien, sont édifiés et à leur tour, ils désirent connaître le Dieu de leur père et le Dieu de leur mère. Eh bien, que le Seigneur nous parle à nous tous. Nous sommes dans un temps familial et le Seigneur a quelque chose à dire aux enfants, mais aussi aux parents et à moi-même en premier lieu. Alors, verset 10. Ruth tomba sur sa face et se prosterna contre terre. Et elle lui dit, et voyez comme le cœur de Ruth est remué, comme on entre dans sa vie, « Comment ai-je trouvé grâce à tes yeux pour que tu t'intéresses à moi ?» Elle est bouleversée. Est-ce que nous savons nous intéresser aux âmes ? Est-ce que nous avons un intérêt pour les âmes, même qui nous paraissent étrangères ? Comment ai-je trouvé grâce à tes yeux pour que tu t'intéresses à moi qui suis une étrangère ? Elle dit la vérité. Bose lui répondit, on m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère. Vous voyez que les nouvelles, on les connaissait. Depuis la mort de ton mari, il savait donc que cette femme était veuve, et comment tu as quitté ton père et ta mère et le pays de ta naissance pour aller vers un peuple que tu ne connaissais point auparavant. Il a de l'admiration pour cette jeune femme qui a osé quitter son peuple, ses dieux, son pays, son père, sa mère. Au fond, elle est tout à fait dans la ligne de qui ? Du père des croyants qui s'appelle Abraham. C'est une fille d'Abraham, cette Moabite. Ce n'est pas le sang et la chair qui fait notre nationalité, c'est la nouvelle naissance. Et alors, nés de nouveau, nous sommes de Dieu. Et non seulement il lui annonce qu'il sait tout de ce qu'elle a fait pour sa belle-mère, mais il fait un vœu, verset 12. Que l'Éternel te rende ce que tu as fait et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. Et elle dit, « Oh, que je trouve grâce à tes yeux, mon Seigneur, car tu m'as consolé et tu as parlé au cœur de ta servante. Et pourtant, je ne suis pas moi comme l'une de tes servantes. » Vous voyez l'humilité de Ruth, elle ne se glorifie pas. Mais ce n'est pas fini, verset 14. Au moment du repas, Bose dit à Ruth, approche, mange du pain et trempe ton morceau dans le vinaigre. Ce vinaigre, c'était un vin acide dans lequel on mettait un peu d'huile. Et c'était une boisson rafraîchissante. Mais c'était donc du vin. De sorte que on a comme une image là de quoi? De la Sainte Seine. Le pain et le vinaigre, mais c'est du vinaigre de vin. Elle s'assit à côté des moissonneurs. Voyez, on ne l'a pas mise à l'écart. On l'a fait s'approcher. Que c'est merveilleux. Elle qui pensait qu'elle n'avait pas sa place, qu'on ne lui donnerait jamais cette place. Non seulement on lui dit de rester dans le champ, mais on lui dit de venir à la table. Ça vous fait penser à quelle table? La table du Seigneur. Quand il nous invite en disant « Faites ceci en mémoire de moi », mais on se sent toujours indigne. Mais quand c'est lui qui nous appelle, alors ce serait l'offenser que de ne pas venir. On lui donna du grain rôti. Et il y a une version qui dit que c'est Bouze lui-même qui lui a donné du grain rôti. Et comme je le disais aux enfants, le grain rôti, l'orge rôti, quand on vient de faire la moisson, l'orge est encore assez tendre. Et en le rôtissant, c'est quelque chose de délicieux à manger. Alors, elle mangea et se rassasit. Elle a mangé de ce que Bose mangeait. N'est-ce pas merveilleux? Elle a pris le repas avec Bose. La première rencontre, le premier jour. Ah, Dieu ne nous laisse pas traîner. Quand il veut nous bénir, sa bénédiction, elle est complète. Elle est rassasiée, puis elle a même trop, c'est-à-dire, il y a des restes, et ces restes, elle les met de côté pour qui? Pour pouvoir apporter à sa belle-mère. Puis, alors, c'est pas parce que elle a bien dîné qu'elle ne va pas travailler, elle se leva pour glaner. Et vous savez, comme on le disait, la glane, hein, c'était au fond le métier du pauvre. C'est tout ce qu'il pouvait faire pour gagner sa vie. Bien accepté cette dernière place. Mais Bose a donné encore des ordres à ses serviteurs. Il leur a dit, ce qu'elle ne savait pas, elle, qu'elle glane aussi entre les gerbes et ne l'inquiétez pas. Et même, vous ôterez pour elle des gerbes, quelques épis, que vous la laisserez glaner sans lui faire de reproche. Vous voyez, il crée pour le travail de cette étrangère une atmosphère incroyable. Elle n'est pas dans le stress, parce qu'elle aurait pu l'avoir le stress. Tout est fait, et c'est vraiment cela que le Seigneur veut faire pour ceux qui l'aiment. Verset 17, c'était là que nous nous étions arrêtés. Elle glana dans le champ jusqu'au soir. Vous voyez, je vous ai dit qu'il y avait plusieurs jusqu'à. Ils ont marché jusqu'à Bethléem. Elle a travaillé le matin jusqu'à l'heure où Bose arrive, jusqu'à 7 heures. On témoigne qu'elle a travaillé et qu'elle n'a pas été assise longtemps. Elle n'a pas pris beaucoup de repos. Maintenant, elle glane jusqu'au soir. Et alors, évidemment, elle a dû se dire, mais ça va encore mieux que ce matin. J'en ai tellement. Et je vous le disais tout à l'heure en parlant aux enfants, elle bâtit ce qu'elle avait glané et il y eut environ un épha d'orge. Et pour traduire cela avec nos mesures, eh bien, cela pesait 30 kilos. De sorte que elle devait se charger de 30 kilos d'orge, rentrer à la fin de la journée avec 30 kilos d'orge. Ça leur donnait vraiment déjà des provisions. Il n'y avait pas besoin de frigidaire. Mais il y avait des provisions pour sa belle-mère. Elle l'emporta. Vous voyez, elle n'a pas peur des charges. Mais quelle joie devait être dans son cœur. Elle avait rencontré ce monsieur Bose. En lui est la force. Et au fond, en quelque sorte, la force qui était en Bose était déjà en Ruth. Elle avait fait une telle rencontre que vraiment, elle avait une force. Elle avait oublié la fatigue de toute la journée. Elle arrive chez sa belle-mère. Elle l'emporta et rentra dans la ville. Et sa belle-mère vit ce qu'elle avait glané. Elle sortit aussi les restes de son repas et les lui donna, de sorte que maman Naomi ne mourra pas de faim. Sa belle-mère lui dit, alors elle est étonnée, la belle-mère, elle lui dit, « Mais où as-tu glané aujourd'hui ? Et où as-tu travaillé ? » Elle voudrait savoir. Quand on vous demande d'où vous venez, vous devez pouvoir le dire. Elle n'a pas raconté des histoires. Ça ne se fait pas. On est dans la transparence. La belle-mère pose une question, « Où as-tu glané aujourd'hui ? » Parce qu'elle voit le fruit de son travail. Et où as-tu travaillé ? Et puis, elle se dit, mais elle bénit déjà, béni soit celui qui s'est intéressé à toi. Il y a quelqu'un qui s'est intéressé à toi. Alors, est-ce qu'on ose dire le nom de celui qui s'est intéressé à soi ? À nous ? Il n'y a pas de problème. Elle est dans la lumière. On lui demande de dire, mais qui est-ce qui s'est intéressé à toi ? Tu reviens, là, tu étais loin toute la journée, tu reviens, mais qui s'est intéressé à toi ? Et Ruth fit connaître à sa belle-mère chez qui elle avait travaillé. Elle n'a pas peur de dire d'où elle vient. N'est-ce pas merveilleux ? Et est-ce que cela ne forme pas notre esprit et notre caractère ? Elle fit connaître à sa belle-mère chez qui elle avait travaillé. Et puis elle dit le nom. L'homme chez qui j'ai travaillé aujourd'hui, dit-elle, s'appelle Bose. Mais elle ne sait pas que Bose est le parent de Naomi par Elimelech. Naomi dit à sa belle-fille, qu'il soit béni de l'Éternel, qui se montre miséricordieux pour les vivants comme il l'a été pour ceux qui sont morts. Elle reconnaît que malgré tout, eh bien, Dieu était miséricordieux même pour ses défunts, c'est-à-dire son mari et ses deux fils. Ce qui nous laisse penser qu'il y a dû avoir sur leur lit de mort, que ce soit Élimélec ou que ce soit ses deux fils plus jeunes, une repentance. Repentance chez Élimélec d'avoir quitté Bethléem, de ne pas avoir eu la foi dans la parole qui disait que dans la famine, il vous ferait vivre. Puis voilà que maintenant, lui qui était parti pour vivre dans la crainte de mourir, et le voilà qui va mourir. Et quand on est en face de la mort, eh bien, vous savez, on va rencontrer Dieu, et il y a des choses qui se règlent. Et je pense que Élimélec, dont le nom voulait dire Dieu est le roi, eh bien, avant qu'il paraisse devant le roi, il a dû se repentir. Mais il est mort. Mais ce que Naomi rappelle, c'est qu'elle avait vu même la miséricorde de Dieu. Je pense qu'il a pu mourir en paix, parce qu'on se repent à ce moment-là. Et ses deux fils, qui avaient transgressé aussi la loi, qu'est-ce qu'ils avaient fait? Ils avaient épousé des étrangères, ce qui était interdit. Et quand ils ont dû s'en aller, après 10 ans de mariage, eh bien, ils ont dû aussi connaître ce moment de repentance. On va mourir, on va partir. Regardez le brigand sur la croix. Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. On sait bien qu'après la mort, tout n'est pas fini. Après la mort, suit le jugement. Mais voilà. Ils auraient pu vivre en témoin, ils ne l'ont pas fait. Ils laissent deux jeunes femmes païennes. Mais ce n'était pas elles qui étaient responsables, c'était eux. Mais Naomi, maintenant, nous montre que Dieu a air les vivants. Préparez-vous. Ah, ne jugeons pas, ne mettons pas en enfer une personne. Je n'ai pas à les mettre au ciel, mais comme nous l'avons répété souvent, quand nous arriverons sur l'autre rive, on aura 3 surprises. De ne pas trouver au ciel ce qu'on y avait mis. Ou d'y trouver ce qu'on avait mis en enfer, mais qui ont été sauvés, sans qu'on le sache comment, mais d'une manière ou d'une autre. Et puis, la plus grande surprise, ce sera d'y être nous-mêmes. Parce que quand on se connaîtra devant Dieu, comme lui nous a connus, on dira, mais c'est pas possible qu'il m'ait sauvé. Quand je pense à tout ce qui a traversé mon esprit, tout ce qu'il y a eu dans mon cœur, c'est vraiment par grâce que nous serons sauvés. Là, j'entrerai sauvé par grâce. Là, tu m'attends au Saint-Parvis. Là, me dis-tu, j'acquis ta place pour toi dans le paradis. Il n'y a rien de nous. Tout est de lui. Et on le bénira. Alors c'est très beau ce que Naomi dit, et c'est révélateur. Dieu reste miséricordieux pour les vivants, comme il le fut pour ceux qui sont morts. Elle ajoute, cet homme que tu as rencontré là, ce Bose, c'est notre parent. C'est ce que lui dit Naomi. Et il est de ceux qui ont sur nous le droit de rachat. Parce que quand une veuve n'avait pas d'enfant, c'était son beau-frère qui devait l'épouser. Il avait ce devoir de l'épouser, comme on l'a déjà vu. Et le premier enfant que cette veuve avait avec son beau-frère portait le nom du défunt. Et puis, c'était cet homme, le plus proche parent, donc habituellement c'était le beau-frère, qui était tenu, c'était son devoir, de racheter ce qui lui appartenait et qui avait été vendu dans une certaine détresse. Et c'est ainsi que la veuve récupérait le bien qui avait appartenu à la famille. Parce que, voyez-vous, Dieu ne voulait pas que les gens s'enrichissent. Il ne voulait pas du capitalisme. Tous les 50 ans, en Israël, toutes les terres revenaient à l'État, si j'ose dire ainsi, et puis on redistribuait tout. On ne pouvait pas s'enrichir. On ne pouvait pas capitaliser à l'infini, être immensément riche. Oui, on pouvait devenir riche, parce que si on était correct, si on était économe, tout cela, c'était possible. Il y a toujours eu des riches, mais il y aura aussi toujours des pauvres, c'est ce que j'ai déjà dit. Les pauvres, vous les aurez toujours avec vous, même si on distribue d'une façon remarquable toutes les richesses, au bout de peu de temps, il y aura de nouveau des pauvres, parce qu'il y en a qui dépensent et qui vivent déjà au-dessus de leurs moyens, tandis qu'il y en a d'autres qui savent faire des économies et qui sont capables aussi de donner. Mais un homme comme Beau savait que son devoir de parent, c'était de racheter les terres qu'Élimélec avait vendues pour les rendre à qui? À la femme de Maclon, à la veuve. Et ça, tout à coup, il s'est passé quelque chose chez Naomi. Elle a pensé qu'il pouvait se produire quelque chose qui dépassait complètement son attente, elle qui avait tout fait pour que justement ses belles-filles n'aient pas d'ennui, ne viennent pas en Israël, et puis tout à coup elle voit qu'elle aurait eu tort, en tout cas pour eux, puisque le Seigneur, qui était au-dessus de tous ses sentiments, lui avait fait rencontrer un homme qui était proche parent et qui avait le droit de rachat. Mais ce n'était pas seulement un droit, nous en parlerons dans les jours qui viennent, quoiqu'on ait peu de jours, mais c'était un devoir pour un homme conscient de ses responsabilités. Il savait que son devoir, c'était de racheter ce bien. Mais, en même temps, il devait épouser la veuve. Ruth, verset 21, la Moabite, ajouta. Il m'a dit, quand elle entend sa belle-mère lui raconter certaines choses, la mettre un peu au courant, alors Ruth se souvient, Ruth, la Moabite, ajouta. Il m'a dit aussi. Vous ne savez pas que c'est merveilleux? Elle est comme Marie, elle a tout gardé dans son cœur. Hein? Tout ce qui était dit, tout ce qu'elle entendait, elle l'a gardé dans son cœur. Il m'a dit aussi, qu'est-ce qu'il lui a dit? Reste avec mes serviteurs jusqu'à ce que j'ai achevé toute ma moisson. Eh bien, ça voulait dire qu'elle était engagée pour combien de temps? 2 mois au moins. Parce que là, on était au mois d'avril, à la moisson des orges, et la fin de la moisson des froments, c'était mai-juin. N'est-ce pas merveilleux? Le premier jour, elle peut être tranquille au sujet de son occupation, de son travail, il ne manquera rien à sa chère belle-mère, à Naomi, mais bien sûr, elle travaillera, mais elle est engagée, elle a son travail. Donc, ne me dites pas que Dieu ne peut pas nous trouver du travail. Et Naomi dit à Ruth, sa belle-fille, « Il est bon, ma fille, que tu sortes avec ses servantes et qu'on ne te rencontre pas dans un autre champ. » Voilà la belle-mère qui approuve totalement ce que Boaz, le parent proche, a dit à Ruth. qu'on ne te rencontre pas dans un autre champ. Tu es là dans un champ qui, où tu es en sécurité. Elle resta donc avec les servantes de Bose pour glaner jusqu'à la fin de la moisson des orges et de la moisson du froment, et elle demeurait avec la belle-mère. Elle n'a pas dit, oh ben maintenant, moi j'ai mon occupation, fini d'être avec la belle-mère, je vais prendre mon petit logement. Je veux être indépendante. Je veux faire ma vie. Non. Elle veut être avec sa belle-mère. Et c'est tellement beau. La vie familiale. Elle demeurait avec sa belle-mère. Qu'est-ce qu'elle avait dit ? Là où tu iras, j'irai. Là où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Voilà ce que nous avons. Maintenant, nous allons terminer. Je vous le dis simplement. Tout à l'heure, quand je priais dans ma tour, eh bien, je pensais à ce chapitre. Et tout à coup, je me suis dit, mais c'est vraiment le psaume 103 qui résume les sentiments qu'on a. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Hein? Et je me suis dit, dans ce chapitre 2, vous pouvez y trouver le caractère de Ruth. Qui était cette fille de Moab? Eh bien, au verset 2, je voyais qu'elle était soumise, elle demande la permission à sa belle-mère, elle accepte d'être glaneuse, ça veut dire qu'elle est humble, et elle ne prétend pas avoir un travail autre que celui qui est possible. Elle va avec espérance, elle est polie, elle demande au foreman là, elle lui demande la permission de glaner, et puis elle est travailleuse. Puis vous pouvez continuer, vous, de trouver les caractères de Ruth. Et puis, quand vous pensez alors aux bontés de Boaz, à ses bienfaits, ben, comptez-les comme au psaume 103. Premièrement, il l'appelle sa fille. Il ne veut pas, deuxièmement, qu'elle aille glaner ailleurs. Il lui donne des compagnes. Il ne permet pas aux jeunes gens de la toucher. Il lui permet, il lui donne la liberté de boire au vase où puisent ses serviteurs. Et puis il répond à sa question. Elle le questionne, mais pourquoi est-ce que tu uses de grâce envers moi? Et puis il lui apprend qu'il est au courant de ce qu'elle a fait. Et il réclame sur elle la bénédiction de Dieu. Puis il ajoute encore d'autres choses, puisque cet après-midi-là, elle recueille une glanure incroyable. Alors voilà ce que vous pouvez méditer quand vous relisez ce chapitre, quand vous le méditez, et il m'a semblé bon, alors j'obéis à ce que me dit mon Seigneur, même si ça ne vous plaisait pas, de vous relire ce chapitre. Nous l'avons relu, et comme cela, il vous devient familier. Et ce que je demande à Dieu, c'est que chacun de vous trouve un prolongement pour sa propre vie. Personne n'est visé ici. Je ne vise jamais quelqu'un. Mais ce que je sais, c'est que tous sont concernés. Sur un point ou sur un autre, nous pouvons être concernés par la parole. Et moi, si je ne me sentais pas concerné par la Bible, je ne lirais plus la Bible. Mais je sais que j'ai besoin de lire la Bible. de la relire. Il ne faut pas que je dise, oh, je connais des... tout ça. Non, c'est une parole vivante. Les paroles que moi je vous dis sont esprit et sont vie. Elles ne nous laissent pas intactes. Et on ne lit pas la Bible pour étudier simplement, pour savoir des choses, mais pour plaire au Seigneur. Car la foi nous place dans cette position qui plaît à Dieu. Quelqu'un qui dépend de Dieu. Et qui arrive à dire, moi je ne peux rien faire. Ma capacité, elle vient de Dieu. C'est ce que Paul disait. Ce n'est pas notre capacité. Nous ne sommes pas capables nous-mêmes. Mais voulez-vous vous laisser faire par le Seigneur? Comme Marie, la mère bénie de notre Seigneur, s'est laissée faire. Qu'il me soit fait selon ta parole. Alors, vous serez bénis et vous serez en bénédiction. Alors, demain matin, nous allons apprendre ce qui s'est passé dans le cœur de Naomi, qui se dit, mais c'est quand même pas possible que ma belle-fille travaille. Il faut que je trouve une solution pour lui donner du repos. C'est beau, hein? Il faut que je trouve une solution pour que ma belle-fille ait aussi du repos. Mais elle combine rien. Elle lui donnera certains conseils que nous verrons demain, de sorte que nous aurons encore de la joie en considérant les voies de Dieu incompréhensibles pour nous. Mais il ne se trompe pas. Et vous apprendrez aussi à connaître le caractère de Ruth et comment elle a suivi les conseils de sa belle-mère. Elle ne s'est pas jetée à la tête de Boaz. Quand elle a eu un contact avec Boaz, elle était où? À ses pieds. Dieu notre Père, nous voulons te remercier et te rendre grâce parce que nous savourons ta parole. Elle est bonne. Oui, même si elle nous reprend sur un point ou sur un autre. Et si même nous nous trouvons très loin de ce qu'elle désire, tu es capable de nous en rapprocher. Tu es capable de tout transformer dans nos vies. S'il y a un point ou un autre où nous avons une souffrance, tu veux nous apporter la guérison. Car dans tes meurtrissures, nous avons la guérison. Et nous voulons te demander que comme Ruth a été consolée et a trouvé la guérison, nous puissions ce soir nous approcher de toi et connaître que tu es l'Éternel qui nous guérit.